La semaine dernière, nous nous posions la question de la maternité. Il y a 15 jours, de la paternité, mère, père. Comment Jésus nous en parle ? Et à quelle référence nous renvoie-t-il pour ces deux visages étonnants de ce qu'on appelle les parents, ceux qui donnent la vie et dont les enfants la reçoivent ? Et je voudrais aujourd'hui qu'on continue en parlant des enfants, fils et filles, en essayant de voir comment le Seigneur peut nous proposer quelque chose et comment il traite les affaires. Et si on examine, l'Écriture, en particulier les Évangiles, on a la surprise de voir que les enfants, ça occupe une place terrible, étrange, enfin énorme, dans la prédication de Jésus. Alors, de quelle manière ? Eh bien, tout d'abord, je dis ça d'entrée de jeu, parce que c'est ça qui va finalement surplomber tout ce que nous allons pouvoir réfléchir et ensemble à ce propos, en essayant de voir quelle incidence ça a sur les problèmes qui sont les nôtres. Jésus se présente comme le Fils. Et bien plus, il dit de Dieu, comme l'a fait la tradition juive et la tradition biblique, Dieu est notre Père. C'est ainsi que commencent beaucoup de prières, dans les prières liturgiques que Jésus a récitées, qu'il a vraiment prié. Mais il dit aussi mon Père. Et expression qui est tout à fait inusitée, d'une certaine façon, qui peut paraître scandaleuse à ses contemporains, il emploie une expression qui signifie « papa », une expression familière en araméen et qui dénote une sorte de familiarité avec Dieu, une relation d'amour, de confiance, d'abandon qui est surprenante, y compris dans la manière de parler. Et je ne vais pas ici davantage développer tout cet aspect de la question, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que d'être fils, car tout l'enseignement de Jésus, lorsqu'il se présente lui comme le Fils, eh bien, nous dévoile une manière de se recevoir du Père, enfin une attitude de filiation qui est tout à fait singulière et sur laquelle nous reviendrons, si vous voulez, une fois que nous aurons terminé notre parcours. Parce que, et c'est là où la raison majeure, la prédication, le message de Jésus, ouvre à ceux qui vont le suivre et entrer dans le chemin qu'il propose, auquel il appelle, de devenir à leur tour enfants de Dieu, de participer à sa condition filiale, avec le thème de la nouvelle naissance. Mais je le répète, ceci, il faudra que nous nous y attardions ensuite. Et posons-nous maintenant le problème un peu différent. Est-ce que dans les paroles, les actions de Jésus, nous découvrons quelque chose qui nous éclaire sur ce que c'est que d'être enfant, ce que c'est que d'être fils ou fille ? Alors tout d'abord, il y a une série de paraboles qui peuvent nous donner quelques lumières à ce propos. Vous vous souvenez, par exemple, des enfants malades, car il y a beaucoup d'enfants malades dans l'Évangile. J'ai déjà eu l'occasion de citer ces exemples à propos des parents, mais vous avez le fils du centurion de Capharnaüm qui est malade, la fille de Jaïr, où Jésus la guérit en associant à sa prière de guérison Pierre, Jacques et Jean. Vous avez la femme cananéenne dont la fille est tourmentée par un démon. Vous avez l'enfant possédé, épileptique, que les apôtres n'arrivent pas à guérir et que Jésus guérit. Et c'est là où Les apôtres, après, disent, mais comment se fait-il que nous n'ayons pas pu le guérir ? Le Père provoque Jésus en disant, tes apôtres n'ont pas pu, toi, si tu peux, si tu peux, alors Jésus relève le propos, tout est possible à celui qui croit, c'est-à-dire à celui qui se fie à la puissance de Dieu. Et quand les apôtres s'étonnent qu'ils n'aient pas pu, eux, user de la force de Jésus, de la force divine pour guérir, Jésus a cette réponse, ce genre de démon se chasse par le jeûne et la prière. Ce qui est très remarquable, parce que dans un esprit un peu païen ou superstitieux, on aurait pu dire bah, il faut faire des prières spéciales, il faut faire des gestes particuliers, il faut faire des rites très compliqués. Alors que Jésus dit que l'outil, l'arme, c'est le jeûne, c'est-à-dire l'entrée dans une relation plus totalement soumise à la volonté divine, et la prière, qui est une remise de sa volonté dans la volonté du Père. Donc les armes proprement spirituelles. Vous avez aussi la veuve de Naïm, qui a un fils unique. Et Jésus, devant cela, est ému de compassion. Vous avez également l'aveugle-né, qui est guéri. Et ses parents le lâchent un peu, vous savez, quand ils sont inquiétés par les autorités du temple. Et ils disent, interrogez-le, il est grand, il saura bien se débrouiller, il vous répondra. Vous avez les fils de Zébédée. Je n'en finirai pas d'énumérer toutes ces situations. Et la caractéristique générale, à part les fils de Zébédée, mais de tout ce que je viens de citer, finalement, ce sont des enfants malades, des enfants blessés, des enfants qui ne sont pas en bonne santé, qui sont possédés, qui sont infirmes. Je trouve qu'ils occupent une place tout à fait singulière dans l'Évangile. Comme s'il y avait là quelque chose qui touche particulièrement la condition de l'homme blessé, la condition blessée de l'homme. Comme si ce point-là était un point particulièrement sensible pour les êtres humains. Et puis, vous avez autre chose, vous avez des paraboles où on voit Jésus nous parler, se servir de la situation de fils ou de fille, surtout de fils, pour exprimer une relation à Dieu. Alors, notamment, il y a toute la série des deux fils. Il y a au moins deux paraboles qui m'en viennent à l'esprit. La première est celle-ci. Les deux fils à qui le père donne une mission, aller travailler à mon champ. L'un dit j'y vais et il n'y va pas. L'autre dit non, je n'y vais pas, mais il y va. Lequel des deux a fait la volonté du père? Vous me direz, c'est peut-être une anecdote. Voir, c'est pas seulement une parabole pour faire comprendre. Il y a là quelque chose qui nous éclaire sur la condition de filiation telle que Jésus nous invite à la vivre. Alors, est-ce la filiation, est-ce la condition filiale humaine, ou bien est-ce la condition filiale par rapport à Dieu, Dieu lui-même, dont nous sommes les enfants, Dieu, le Père de Jésus-Christ, Dieu dont Jésus dit « mon Père » et « votre Père ». Laissons la question ouverte. Une autre parabole des deux fils. Vous avez par exemple celle des deux fils de la parabole de l'enfant prodigue dans Saint Luc. Elle est célèbre, je ne vais pas non plus vous l'exposer ici, mais vous vous souvenez de l'attitude du fils aîné et du fils cadet, y compris leur relation mutuelle. Quand le père accueille avec générosité, avec amour, va au-devant du fils cadet, et que l'aîné trouve vraiment c'est pas juste. Et il faudrait reprendre dans le détail cette parabole aussi. Et dans cette attitude, dans ces paraboles de Jésus, nous voyons que la condition filiale exprime quelque chose de tout à fait fondamental de notre rapport à Dieu. Alors je citerai enfin, pour terminer cette énumération, qui est loin d'être complète, vous savez bien que Jésus bénit les petits-enfants, demande qu'on les laisse accéder jusqu'à lui, leur témoignent amitié et respect, même quand ils sont insupportables. Par exemple, au rameau, quand les gosses se mettent à crier, à l'entrée à Jérusalem, se mettent à crier en clamant « Hosanna au fils de David », en citant le psaume 117 et en chantonnant les acclamations de la fête des tabernacles et de l'entrée dans le temple. Voilà que Jésus dit à ceux qui lui disent « Faites taire tes disciples et faites taire tous ces gamins ». Alors il ajoute « si on ne les laisse pas dire, les pierres elles-mêmes crieront, comme si les enfants étaient des enfants prophètes ». Et si Jésus parle dans ces termes des petits-enfants, alors il y a peut-être une raison presque d'intuition, de perception de l'enfance, de la condition enfantine et filiale. Mais il y a plus encore, me semble-t-il, c'est quand il ajoute « Si vous ne devenez comme ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux ». Et que signifie devenir comme ces petits-enfants, devenir petit-enfant ? Eh bien, c'est dans l'entretien avec Nicodème que nous en avons la clé qui nous permet de comprendre ce que Jésus veut dire lorsqu'il dit à ce vieillard « Nul, s'il ne naît pas d'en haut ou à nouveau, de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume des cieux. » Et Nicodème dit « Comment, moi, un vieillard, rentrer dans le sein de ma mère, qu'est-ce que tu me racontes ?» Et Jésus répète et insiste « Entrer dans le royaume des cieux, c'est entrer dans une nouvelle naissance, dans une nouvelle condition d'enfant de Dieu. » Et j'emploie à dessein le mot « enfant », car si c'est le mot masculin qui est employé dans le langage biblique, ce n'est pas pour autant qu'il y a là une différence sensible. Car si nous avons vu une différence entre la condition du père et de la mère, avec une symbolique différente, très, très, très visible, nous voyons que le thème de l'enfance et sa symbolique convient à tous. Et c'est ce que la prophétie de Joël qui est citée au jour de la Pentecôte, « Vos fils et vos filles prophétiseront, car ils recevront l'Esprit donné aux enfants de Dieu. » À la semaine prochaine. Bonjour. Nous méditions ensemble comment Jésus nous parle de la condition d'enfant, de la condition filiale. Et je voudrais que nous poursuivions aujourd'hui cette réflexion, parce que c'est vraiment un point tout à fait capital. Puisque entrer dans le royaume des cieux, c'est naître à nouveau, c'est de redevenir ou devenir enfant de Dieu par une nouvelle naissance, devenir tel un nouveau-né, grandir et entrer dans une relation de filiation en Jésus, pouvoir dire notre Père en parlant à Dieu, Père de Jésus, celui dont le Christ dit mon Père. Lui-même, Jésus ressuscité, dira « Mon Père et votre Père ». Vous voyez, il y a là toute la condition filiale qui est au cœur du mystère du salut, du mystère chrétien, de la condition chrétienne. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que je vais essayer d'explorer ça très rapidement. Sinon, nous pouvons y rester des semaines et des semaines. En effet, devenir enfant de Dieu, d'une certaine façon, c'est déjà l'attitude d'Israël dans toute sa tradition, puisque Dieu lui-même est considéré comme le père de ce peuple. Il est comme un père pour son peuple. L'image est employée. Et je vous le disais, il était dans l'éducation même que Jésus a reçue, dans la manière de prier qui lui a été transmise, par la Vierge Marie, par tous ceux qui l'ont formé, par Saint Joseph, par tous ceux qui ont aidé à lui former, à l'éveiller, ils lui ont appris à dire notre Père, à appeler Dieu notre Père et notre Roi, comme beaucoup de petits-enfants juifs le font aujourd'hui. Et cette appellation prend, dans le mystère du Fils donné par Dieu, un sens inouï, inimaginable, puisqu'il s'agit de révéler le mystère même qui est en Dieu, l'amour au sens le plus fort du mot, qui vient habiter parmi nous. Ce que nous avons appelé, d'une façon précise, en empruntant les mots mêmes de Jésus, le Fils éternel, qui est auprès de Dieu, qui est, comme saint Jean le dit, au commencement était le Verbe, il était auprès de Dieu, il était Dieu. Et c'est ce Verbe, cette parole divine faite chair, que nous adorons dans le mystère de l'incarnation rédemptrice. Alors, vous le voyez, cette manière d'être fils et fille est quelque chose de tout à fait central dans la mission même que nous recevons de la part de Dieu et notre condition chrétienne. Cependant, il faudrait maintenant que nous essayions d'aller un peu plus avant. Tout d'abord, regardons la manière dont Jésus se comporte lui-même comme enfant. Car il a été fils, non seulement fils de Dieu, ainsi qu'il nous l'enseigne et qu'il nous permet de comprendre ce mystère vertigineux, mais à l'égard de Marie, sa mère, comme à l'égard de Joseph, son père qui l'a adopté, qui l'a reconnu, qui lui, cet enfant qui a été donné à Joseph pour être son enfant, l'attitude de Jésus est une attitude que les évangélistes nous rapportent en des termes précis. Lorsque saint Luc en particulier nous dit que l'enfant Jésus grandissait en sagesse et en âge, et il ajoute, il leur était soumis à ses parents. Il a donc une attitude filiale, humaine, disons de soumission, mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est un enfant obéissant, au sens où aujourd'hui on dit d'un enfant qu'il est obéissant parce qu'il ne fait pas d'histoire. Je crois que ça ne serait pas tout à fait bien jugé, parce que saint Luc nous raconte aussitôt après un épisode bien plus curieux. C'est quand l'enfant a 12 ans et qu'il monte au temple à Jérusalem avec ses parents, bien on voit que cette espèce de fugue enfantine, c'est déjà un jeune adulte puisqu'il entre dans sa majorité religieuse. Les parents le retrouvent au bout de 3 jours, assis au milieu des docteurs, répondant à leurs questions et faisant leur admiration devant la sagesse de ses réponses. Pourtant, c'est un enfant qui est en Galilée, où, disons, les études ne sont pas très poussées. Et voilà que Jésus répond à ses parents, qui lui disent, mais enfin, on te cherchait, on a été très inquiets, on te croyait perdu, pourquoi nous as-tu fait ça? Et la réponse de Jésus, c'est, ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Ça prouve donc que la soumission de Jésus à ses parents n'est pas à comprendre comme l'attitude d'un enfant sage. Il y a là comme quelque chose qui doit nous attirer notre attention, c'est que les relations habituelles de l'enfance et aux parents, ou des enfants aux parents, Jésus la vit effectivement, mais déjà en lui donnant une dimension que nous avons du mal à interpréter autrement qu'en termes d'indépendance, de crise d'adolescence, ou bien d'indépendance, alors que c'est manifestement, c'est pas ça. Alors, si l'on avance un peu dans l'histoire, si on reprend quelques détails de l'Évangile, on s'aperçoit que Jésus, au moment où, saisi par l'Esprit, il commence son ministère messianique, vous savez, les premiers épisodes, le baptême, la tentation au désert, les premières prédications en Galilée. Les évangélistes nous rapportent 2 épisodes qui sont quand même très impressionnants. C'est que les gens de son village de Nazareth, y compris sa parenté, sont au dehors et disent « Mais il a perdu l'esprit, faut qu'on le ramène à la maison, c'est pas possible. » Et en d'autres termes, on nous rapporte que on alerte Jésus en lui disant, alors c'est une autre version, c'est un autre épisode, ta mère, tes frères, tout ça, toute ta famille, tes cousins, enfin toute la tribu, pardonnez d'employer ce mot un peu un peu inexact, mais qui désigne la famille au sens large du mot. Ils sont là, ils te cherchent. Jésus répond, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et regardant autour de lui, fixant ses disciples, il dit, ceux-là sont ma mère, mon frère, mes frères, mes sœurs, qui font la volonté de mon Père qui est aux cieux. Alors là, nous sommes devant quelque chose qui peut paraître étrange, car dans nos catégories à nous, c'est presque montrer un détachement, un reniement de la condition filiale. Qu'est-ce que fait Jésus? Est-ce que c'est vraiment un bon fils? Puis il y a des propos encore plus scandaleux. Jésus, parlant à ses disciples, dit, si quelqu'un m'aime, ne m'aime pas plus, le grec dit ne hait pas, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, etc., jusqu'à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et il ajoute, annonçant les divisions et les conflits à venir, que les enfants dénonceront les parents, que les parents dénonceront les enfants dans des perspectives dramatiques du combat spirituel qui va venir, tel que Jésus les dévoile. Il ajoute par exemple que les familles seront divisées, 2 contre 3, 3 contre 2. C'est comme le sont les 5 doigts d'une main, hein, c'est le chiffre 5. Alors que les doigts sont réunis, voici que la division va éclater. Est-ce que l'enseignement de Jésus est à ce point subversif que ça amène l'éclatement de la solidarité familiale? Parce qu'il faut quand même aller jusque-là. Si on prend au sérieux ces paroles de Jésus. Et puis, si nous allons jusqu'au bout de l'évangile, nous voyons par exemple que Jésus dans sa passion a la grâce ou le don de voir au pied de sa croix sa mère avec le disciple qu'il aime et quelques autres saintes femmes, et qu'il a ces paroles alors encore plus bouleversantes. Il dit à Marie, femme, voici ton fils, et au disciple qu'il aimait, voici ta mère. Nous allons presque jusqu'au bout d'un chemin que nous n'arrivons pas à comprendre. Quand Jésus, au temple, dit à ses parents qu'après tout, il doit être aux affaires de son père, et traverse ainsi son expérience humaine de fils et d'enfant, d'un bouleversement qui nous permet d'entrevoir dans la condition filiale humaine de Jésus le mystère de notre propre filiation à l'égard de Dieu et la transfiguration de notre condition humaine. Ainsi, surtout si nous ajoutons à cela les propos que j'ai déjà cités de Jésus sur la nécessité de renaître d'en haut, de devenir tels les enfants, de naître de l'eau et de l'esprit, si nous reprenons les propos de saint Paul et des premiers témoins de l'Évangile sur cette nouvelle naissance, ce nouvel enfantement, voir les images de Jésus qui parlent du royaume comme d'un enfantement. Rappelez-vous la femme qui enfante, elle est dans les douleurs de l'enfantement et ensuite elle est dans la joie de ce qu'un fils lui est donné, qu'un enfant lui est donné. Si nous mettons tous ces propos bout à bout, vous voyez que là aussi, comme pour la paternité et la maternité, il y a une expérience humaine qui est comme transfigurée, saisie de l'intérieur par ce mystère de l'incarnation. Et dès lors, nous avons là, dans le concret de l'enseignement de Jésus et de ce qu'il a lui-même vécu, le lieu même sacramentel où nous pouvons comprendre notre propre condition d'enfant d'un père et d'une mère. Les difficultés et les malheurs que nous pouvons rencontrer sont comme réassumés dans un mystère qui nous dépasse et qui donne sa dignité proprement humaine à la condition filiale. Dès lors, ni le père, ni la mère, ni les enfants ne sont à comparer à ce que sont dans les espèces animales, pardonnez-moi de revenir à cette comparaison, l'enfantement, la paternité, la maternité et l'éducation des petits, même si nous avons des analogies, des enracinements biologiques, charnels, qui nous rapprochent de l'ensemble de la création. Mais notre condition humaine est aspirée comme en haut pour dévoiler son vrai visage. Si vous voulez, c'est ce que nous essaierons de poursuivre dans les prochaines semaines.